Souvenirs des colonies, troisième partie. L'imaginaire colonial.
Le premier jour, non, ça remonte trop loin, je ne saurais pas vous dire. De toute façon, quand on arrive, on vous lâche dans la nature, vous êtes recroquevillé sur vous-même. Hein. C'est un monde de nouveau, les gens que vous êtes amenés Les gens que vous êtes amenés à côtoyer, bon, c'est la peur, en fait. Hein. C'est la peur totale. Quand on nous amenait ici, on nous lâchait dans les arènes, en fait. On n'était pas préparés, nous, à tout ça. Puis d'un côté comme d'autre, que ce soit les parents ou les incites, du peu de souvenirs que j'en ai. Tout ça, à la maternelle, on était isolés. Hein. On était là, ils nous acceptaient parce qu'il fallait bien qu'ils nous acceptent, mais sans plus, quoi. Et là, c'était guère mieux au départ. Hein. Après, il a fallu qu'on se prenne en main, et c'est grâce à ce monsieur Berthéa, d'ailleurs. Il ne faisait pas d'état d'âme à l'époque, hein. C'était comme ça, pas autrement. Hein. Vous arrivez en récréation, vous n'avez rien à quoi bouffer. Les petits copains qui avaient leur goûter, nous, on n'avait pas tout ça. Il fallait qu'on aille le voler. Hein. Enfin, pour ceux qui osaient. Et même dans la cour de récréation, nous, souvent, on était réunis plutôt de ce côté-là. Et tous les autres étaient plutôt de ce côté-là. Quand les incites étaient là, à la pause, bon, ben, ils se sentaient plus en sécurité parce qu'on était censé les agresser, nous. Enfin, nous, bien grand moi. C'est vrai que dans le lot, il y en avait qui se distinguaient par rapport à tout ça. Ils attendaient que ça, hein, la récréation, pour aller faucher le goûter du petit copain. Non, regardez. Du moins, moi. Et c'était surtout psychologique. Ça se ressentait bien. Hein. On faisait en sorte de nous mettre à l'écart. Notre coin à nous, c'était cette partie-là. On savait où on était parqués, je veux dire. On n'avait pas besoin de... Puis après, avec le temps, je sais plus, ça remonte beaucoup trop loin, c'est pas... Et c'est difficile à dire. Ça se vit surtout. Par des mots, c'est très difficile à dire, surtout quand vous êtes un enfant. Vous êtes là, vous observez, vous dites c'est injuste, vous comprenez pas ce qui vous arrive, vous n'avez pas de point de repère, vous êtes livré à vous-même, voilà. Les parents, vous savez qu'ils existent, mais c'est pareil, c'est toujours la crainte, la peur. Peur de quoi, en fait, on ne sait pas. On le ressentait, mais pas assez pour prendre conscience, pour pouvoir en parler. Il ne fallait surtout pas se faire remarquer, quoi, c'est tout, la peur, elle était là. Puis après, quand il se passait quelque chose, on allait dénoncer. Enfin, certains allaient dénoncer. Bon, on vivait que ça au quotidien. Hein. C'était pas l'enseignement, c'était pas l'école, c'était la tyrannie, quoi. On n'avait pas le choix parce que de toute façon, on allait à l'école, il fallait bien se tenir, mais bien se tenir, ça voulait dire quoi? Donc c'était l'autorité dans tous les domaines. Même le père qui n'était pas trop au courant, il venait entendre quelque chose, c'était l'autorité. Quand ce n'était pas le père, c'était le frère. Et quand on était à l'école, c'était les instits. Voilà le climat dans lequel on a évolué. En fait, il fallait faire pour pas subir la sanction, en fait. On ne travaillait pas pour apprendre, on n'était pas là pour... On ne nous mettait pas dans un état d'esprit de nous cultiver, de nous apprendre quoi que ce soit. C'était une sanction. C'était une punition. Bon, le devoir, le fait de faire, il fallait faire pour ne pas être puni. C'est comme ça que je peux définir ça. Moi, je ne trichais jamais moi, par rapport à ça. Hein. Même quand je ne savais pas, je préférais rendre la feuille vierge. Hein. J'ai toujours mis un point d'honneur à ça. Bon, il vous disait, bon, il faut aller à l'école, il faut bien travailler, mais je veux dire, on n'avait pas l'encadrement voulu pour ça. Enfin, je vous dis, quand on devait travailler, on travaillait à la lueur d'une bougie. Hein. Pas évident. Hein. Et je ne supportais pas les réflexions des instituts, du moins la manière avec laquelle ils abordaient la réflexion. Pour moi, c'était une humiliation devant tout le monde, je n'acceptais pas. Et à chaque fois, c'était la révolte, donc ça ne pouvait pas passer. L'institut, c'était l'autorité. Et moi, je me rébellais contre ça. Je n'ai jamais été d'accord. C'est ce qui m'a valu d'être là, d'ailleurs. Ben, d'être ce que je suis, en fait. S'il y avait un autre comportement, peut-être que je serais ailleurs. Non pas par manque de possibilité, mais c'est un problème caractériel. On n'avait pas de psychologue, nous, à l'époque.
L'imaginaire et la réalité en constant aller-retour, c'est par le réel que j'ai choisi de commencer cette émission avec ce témoignage d'une personne qui a choisi de rester anonyme, un témoignage recueilli par Emmanuelle Taurine, réalisatrice, qui nous en précise maintenant le contexte.
C'était sur un travail très serré, sur une école de Marseille, qui se trouve à Saint-André, école de garçons. Et donc on parlait vraiment de ses souvenirs, de son histoire au sein de l'école quand elle n'était pas encore mixte. Voilà, donc on était très serrés là-dessus. Et finalement, en le réécoutant dans le cadre de votre émission, je me rends compte à quel point, quand on l'écoute, on ne sait plus où on est. On ne sait plus où on est dans le temps. On ne sait plus où on est, alors qu'il parle tout le long de frontières, on ne sait plus dans quelle partie du monde on est. Et on pourrait très bien se trouver là avec lui, en Algérie, au moment de l'Algérie française, au moment où l'enseignement était apporté aux Algériens, où il y avait ségrégation au départ, hein, puisqu'il y avait les classes d'indigènes et les classes des Français, où il y a eu mélange à un moment donné, mais comment il s'était opéré? Est-ce que c'est la reproduction totale de ce qui se faisait en Algérie qui s'est fait là à Marseille? Donc en tout cas pour situer, il est né en 1961, donc là on est au début des années 70, où il parle encore aussi des conditions dans lesquelles il vivait, c'est-à-dire qu'il dit qu'il essayait, tant bien que mal, à apprendre à la bougie. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'électricité, il faut écouter aussi ce qu'il y a derrière les mots. Et on est là, il y a à peine 30 ans, quoi. Enfin oui, il y a un peu plus de 30 ans. Donc, ouais, c'est quoi le thème de votre émission? C'est « Souvenirs des colonies ». Je trouve que c'est fou d'entendre ce son dans cette émission-là, quoi.
Image et réalité, là on a commencé par la réalité, c'est la réalité d'aujourd'hui. On va peut-être aussi évoquer une autre question qui est plus particulièrement associée au domaine de l'image, de l'imaginaire colonial. Pour évoquer ces questions avec moi, Christine Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice du patrimoine et vous êtes donc tout à fait au fait de ces questions qui concernent le patrimoine de l'époque coloniale. Une première question qui me vient immédiatement à l'esprit et notamment à l'écoute de ce sujet que l'on vient d'entendre. Pensez-vous qu'on retrouve aujourd'hui tout ou partie de cette imagerie coloniale, de cet ensemble de coercition coloniale dans la figuration aujourd'hui de l'immigré? Est-ce qu'on peut parler des indigènes de la République?
Ah oui, j'aime beaucoup votre question, surtout après l'émotion de ce qu'on vient d'écouter. Je vais essayer de prendre votre question à contre-pied. N'y voyez pas là un défaussage de ma part, hein. C'est que pour moi, la question de l'image coloniale, ou de l'imaginaire colonial plutôt, je ne me le pose pas du tout en termes de colonie et je ne le laisse pas enfermer dans ce terme-là. Je le mets de suite et je l'analyse de suite dans un ensemble beaucoup plus large qui me permet de contextuer en fait, et qui est la question de l'orientalisme. Et c'est dans cette question-là que j'entends votre question pour cette émission. Je crois que effectivement, on a des. Si on ne va pas au cœur de ce que l'inconscient nous conserve, on va rater complètement notre aujourd'hui. On va être à côté de cet aujourd'hui. La grande force de la Déclaration des indigènes de la République, c'est d'avoir écrit « indigènes de la République ». La grande force, on ne leur donne pas forcément raison, on ne les accable pas non plus forcément, c'est un positionnement à partir du moment où ils ont écrit ça. Le paysage n'est plus du tout le même. Et c'est là où ils ont fait une œuvre de création extraordinaire. Donc, quand on va dire indigène de la République, oui, ils vont nous renvoyer tout de suite à quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans le cadre de ce contexte plus large de l'orientalisme. C'est comment notre République à nous, notre République française, a pendant un temps été une République coloniale. Et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire que peut-être notre République est encore coloniale, au sens où peut-être que nous avons dans la République encore des fonctionnements qui est, ou plus exactement que notre imaginaire, voilà, ce serait plus juste de dire ça, que notre imaginaire républicain, il est aussi alimenté par notre passé colonial. Pour le bien et pour le mal, pour le bon et pour le mauvais. Je ne suis pas du tout pour la flagellation à la française. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse plus, c'est que dans le contexte de l'orientalisme, il y a quelqu'un qui est M. Edouard Saïd, qui est un Palestinien, chercheur, aujourd'hui décédé, qui a dit des choses absolument extraordinaires. Il disait je vais essayer de le retranscrire, hein. Vous m'excuserez les uns et les autres si je ne suis pas au plus près de sa pensée, mais c'est comme ça que je l'entends, en tout cas moi. C'est que ignorer ou négliger l'expérience superposée des deux côtés de discours ou de narration rivale, c'est passer à côté de notre contemporanéité. C'est-à-dire que notre aujourd'hui est fait de ça. Notre aujourd'hui, la richesse de notre aujourd'hui, il est fait de ça. Il est fait de deux discours, de deux narrations, de deux imaginaires qui sont de chaque côté du miroir colonial. Et notre richesse, c'est justement d'essayer de les entendre de chaque côté du miroir colonial. Donc vous voyez qu'on est un peu loin d'un simple manichéisme, même si je m'amuse à dire deux côtés d'un miroir. Hein.
C'est un miroir qui est certes très réfléchi, mais c'est aussi un miroir qui est déformant. C'est un miroir qui, à partir de la figure, crée une figuration. Et on peut aborder, si vous voulez bien, Christine Breton, la notion de type qui est vraiment indissociable de cette imagerie coloniale. Au XIXe siècle, grande époque des colonies, une conception naturaliste très en vogue tend à classer tout le vivant en un certain nombre de catégories, d'espèces, de sous-espèces. On voit même des sciences ou pseudo-sciences comme la morphopsychologie expliquer la psychologie des gens en fonction du diamètre de leur tête. On veut tout classer. Et on a pour principe que chaque groupe social est supposé avoir une image homogène, que le corps social, c'est un corps comme un corps commun. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation à l'époque du corps scientifique ?
Tout ce dont vous avez parlé, vous n'avez parlé que d'une seule chose. Vous avez parlé du musée. C'est absolument incroyable. Le musée comme lieu des typologies. Le musée qui conserve dans les types. Les types servent à conserver. Les catégories servent à faire des tiroirs, les tiroirs se mettent dans des meubles, les meubles se mettent dans des salles, les salles constituent le bâtiment. Et c'est ce classement-là, c'est la façon de prendre la pensée, de prendre le savoir et de le catégoriser, qui est aussi bâti dans un monument poétique extraordinaire qui s'appelle le musée. C'est aussi ça. Le musée, c'est aussi le lieu du « un ». C'est-à-dire que c'est le lieu dans lequel on va continuer de réciter au présent notre grande utopie uniciste, quoi. C'est le désir politique de Dieu, désir politique de un. C'est ça le musée. Et là, j'imagine que les émissions que vous êtes en train de monter à Radio Grenouille sont autour de l'actualité muséale, autour du fait colonial. Mais moi, je ne voudrais pour tout l'or du monde jamais être en responsabilité de construire un musée sur le fait colonial ou un mémorial ou n'importe quel type de bâtiment comme ça. C'est trop difficile. C'est abominablement difficile. Comment voulez-vous, avec les outils que nous avons de la muséographie aujourd'hui, arriver justement à restituer ce qui, pour moi, est le challenge de la pensée en dialogue, c'est-à-dire de penser avec l'autre, de parler avec l'autre, de confronter mon récit au récit de l'autre et de constituer des récits communs ensemble. Donc, comment voulez-vous que ce dialogue puisse être dans un contexte qui, lui, de tout temps, hein, depuis la création même de la République, depuis la Révolution, le musée, c'est ça. Le musée, c'est le 1. C'est le siège du 1. C'est le siège où l'on va fabriquer le corps symbolique, le corps social au plan symbolique. C'est là où on va élaborer toute la doxa symbolique. Vous voyez un petit peu la fabuleuse contradiction même, j'allais dire.
Revenons, si vous voulez bien, à cette notion du corps commun, à cette unicité dans la représentation. Ça a été, tout au long de notre histoire récente, un des fondements de la pensée raciste.
Oui. Oui. Et alors ? Quelle est votre question, si je puis me permettre ?
Eh bien, c'est quelque chose qui fait partie aussi de notre patrimoine, cet élément de notre pensée. Il faut que nous l'acceptions.
Je comprends. Alors, je ne dirais pas qu'il fait partie de notre patrimoine, je dirais qu'il est de notre héritage. C'est-à-dire que quand on naît, on va naître avec des maladies que notre père ou notre mère génétiquement nous ont transmises. On va naître avec des capacités intellectuelles que notre père ou notre mère vont nous avoir transmises. Quand en Chine, on veut remercier quelqu'un, on ne remercie pas lui en direct, on remercie son père et sa mère de l'avoir fait parce qu'il nous a donné quelque chose. Donc vous voyez que c'est ça, voilà, oui, cet héritage... C'est celui qui nous fascine et qui nous façonne. Tiens, il est très joli, ce glissement-là. Et oui, on le porte aussi, celui-ci d'héritage. Moi, j'ai... parce que je pense que c'est toujours plus intéressant que des discours généraux de parler de soi. Vous m'excusez si ça paraît narcissique à vos auditeurs. Peu importe à la minute, mais je pense que ça peut être intéressant. J'ai traversé à la fois le monde de la colonie française en Algérie, le monde de la colonie italienne en Libye, le monde de la guerre au Moyen-Orient, donc le monde de la colonie anglo-française des protectorats au Moyen-Orient, traversé l'occupation de la Palestine actuelle par Israël, traversé tout ce qui nous préoccupe dans notre société française aujourd'hui en matière justement de ce que Blanchard appelle la colonisation de l'espace de la République par l'Empire. Et ça, c'est toutes ces choses-là qui me font, et qui me font parler de cette façon, qui me font penser le patrimoine et mon métier de conservateur de cette façon, et qui aussi sont ma richesse. J'y tiens à tout cet héritage-là. Voilà.
Une conséquence, une trace de cette pensée raciste qui donc fait partie, non pas de notre patrimoine, vous avez raison de le faire remarquer, mais de notre héritage, un héritage bien lourd et bien pesant. C'est ce que Jacques Derrida appelle l'ablation de la citoyenneté, c'est-à-dire le fait que, ne correspondant pas à l'image qui est voulue unique pour notre corps social, eh bien les étrangers, les migrants sont tolérés, mais ils n'ont au fond pas le droit d'être là. On accepte qu'ils vivent, mais on n'accepte pas qu'ils existent.
Vous avez dit le mot qui me passionne, c'est ce mot de « être là ». C'est-à-dire que pour moi-même, pour vous, pour votre auditeur, comme pour toute personne vivant dans les quartiers dans lesquels nous travaillons avec Emmanuel Thorine, pour toute personne, l'enjeu, c'est ce « être là ». Et donc, l'enjeu de l'imaginaire, vu que c'est le sujet quand même qui nous réunit là, hein, l'enjeu de l'imaginaire, c'est bien de réciter ce être-là. Qu'est-ce que je fais comme récit de mon être-là ? Je vous ai tenté un récit personnel juste précédemment, mais lorsqu'on travaille sur l'histoire de l'école des filles, par exemple, ou de l'histoire de l'école des garçons, dont l'extrait que vous avez entendu là en introduction, c'est un récit commun de être-là, garçon ou fille dans une école, et cette école étant traversée par un siècle de regards, un siècle de récits posés les uns à côté des autres, finit par fabriquer ce grand récit collectif qui fait que nous sommes là. Vous voyez ?
Nous voyons. Et pour mieux voir encore, je vous propose maintenant une lecture d'images par les enfants des ateliers de l'image à Marseille.
Ben, sur l'image, il y a trois couleurs, un drapeau et un empire. Et au-dessus, il y a trois personnages. En premier, il y a un Africain. À côté de lui, il y a un Noir. À côté de lui, il y a un Chinois. Et derrière eux, il y a un drapeau, celui de la France. Et tout au-dessus, écrit en petites lettres, « Secrétariat aux colonies services d'information ».
À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que la France, elle a colonisé ses peuples. et que elles contrôlent leur pays.
Et aujourd'hui?
Bah aujourd'hui, elles contrôlent que elle a que le pays de la France. Et ils ont plus les pays qu'ils avaient en Afrique et en Asie.
À ton avis, le titre de l'image « Trois couleurs, un drapeau », c'est quoi les trois couleurs?
C'est la couleur des trois personnages. Y a le chinois, il est jaune. Le noir, il est noir. Et il y a un brun.
À ton avis, c'est quoi un empire?
C'est quand un pays, il conquit des autres. Il repousse ses frontières.
Parle-moi un peu de comment ils sont habillés, ces trois personnages.
Eh ben, le brun, il a un foulard sur la tête, comme il y en a en Afrique, dans le désert. Et le chinois, il a un chapeau en triangle.
Quelles expressions ils ont, ces trois personnages?
Eh ben, ils ont l'air pas contents.
Et à ton avis, pourquoi ils sont pas contents?
Puisqu'on les a conquis, ils sont plus libres. Ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent.
بعظامي الفانيات ثم مروا بروفاتي
Trois couleurs, un drapeau, un empire, une affiche célèbre de la propagande colonialiste du début du XXe siècle, décrite aujourd'hui par des enfants de Marseille avec, vous l'avez constaté, beaucoup d'aplomb et de lucidité. Tout de suite, on retrouve Christine Breton pour la suite de notre entretien à propos de l'imagerie coloniale, reflet de cette société bourgeoise et conquérante dont nous portons aujourd'hui le bien lourd héritage.
Du type que nous venons d'évoquer à l'archétype, il n'y a évidemment qu'un pas. Notamment Gilles Boetsch a évoqué cette question. Le rôle de l'image, et notamment de l'image cinématographique, dans la codification des types, et puis surtout l'affectation à ces types d'un certain nombre de valeurs morales. Le traître et le méchant a une petite barbiche, il a la peau mate, il a une caractéristique qui pourrait faire penser qu'il vient du Maghreb. Le bon sauvage est affublé d'un grand sourire, etc. Enfin, on a une codification extrêmement précise, une imagerie qui est souvent très manichéenne, très très binaire. Alors, selon vous, est-ce que le colonialisme et l'imagerie qui en découle est le reflet d'une société moralisatrice?
C'est beaucoup plus que ça. Ça va nous chercher dans quelque chose qui est... Parce que c'est ça l'enjeu de l'imaginaire, n'est-ce pas? Ça va nous chercher dans des enjeux ou dans des lieux plutôt qui sont ceux de l'abîme, plus que de la morale. Je pense que c'est plutôt là que ça se passe. Quand vous avez parlé, moi j'avais en tête, et j'imagine que c'est ce que vous aviez en tête aussi, les grandes typologies physiques rendues en vrai à l'échelle 1 dans les zoos humains, qui étaient les fameux lieux d'exposition de ces différents types, hein, dans les expositions coloniales, qu'elles soient ici à Marseille ou qu'elles étaient à Paris. Dans ces zoos humains, il y avait bien sûr l'horreur, l'abîme terrible de nous trouver confrontés à avoir passé ce pas de mettre en représentation l'homme et son corps, son être là. C'est là où on passe le pas, c'est là où il y a, où on va toucher à véritablement quelque chose d'important. Mais en même temps, dans ces zoos humains, on avait la possibilité, il y a quelqu'un qui l'a très très bien raconté, c'est Didier Daninck, quand il fait son roman policier sur les zoos humains justement. Ce bouquin est passionnant parce que Didier Daninck se donne par la fiction la possibilité de dépasser cette chose qui me gêne toujours beaucoup dans le discours colonial, qui est la façon dont nous sommes scotchés, complètement tyrannisés même par la fascination de nos crimes. C'est pire encore d'être fasciné par ces crimes que d'être dans la réalité de ces crimes. Et Didier Daninck, dans sa fiction, parce qu'un roman est une fiction, il nous sort de ce scotchage-là, il nous sort par le haut, il nous sort au XXIe siècle. Et il nous sort dans la réalité, aujourd'hui, de l'île, des îles, par exemple. Et ça, c'est très très intéressant. Surtout pour nous à Marseille, où justement la réalité multiforme, multiculturelle de la ville nous oblige à tout moment de revenir sur 2006, la date à laquelle nous sommes. Parce que à tout moment, ben, on rencontre un tel dans la rue, un tel à l'école, un tel dans une émission de radio, etc. Vous voyez ? Alors, j'ai pas tout à fait répondu à votre question, mais je crois que... Comme tout à l'heure, je disais, la question coloniale, il faut la mettre dans un contexte plus large qui est celui de l'orientalisme. Je crois qu'il faut aller plus loin que la question de la morale. Il faut aller au fondement même de l'espace politique, de celui qui nous unit, c'est-à-dire à l'abîme même.
À propos de ce parallèle politique, est-ce qu'il vous semble que le néocolonialisme puisse être lié au néoconservatisme ? On voit les deux se développer en ce moment considérablement et dans un contexte qui est celui de l'Empire. Ça n'est plus l'Empire français, c'est l'Empire américain. Mais au fond, certaines de ces structures sont sans doute semblables ou comparables.
Oui, tout en ne voulant pas me laisser entraîner dans une espèce de gauchisme moralisateur, vous voyez. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie beaucoup. Mais ça m'ennuie que la pensée soit réduite à ça. Je crois qu'on a beaucoup plus à faire. Tout à l'heure, vous parliez de l'image de Banania avec le soldat africain qui va mourir pour la patrie. Je crois que c'est plutôt là qu'il faut qu'on soit. C'est-à-dire que mourir pour la patrie, ce n'est pas seulement être dans un processus de rédemption pour l'Africain. Mourir pour la patrie, c'est aussi nous renvoyer, nous, à ce pouvoir de tout exiger qu'a le pouvoir politique. Et je dirais même plus, c'est l'essence du pouvoir politique de tout exiger, jusqu'à mourir pour la patrie. C'est-à-dire que je pense que c'est là que nous devons nous interroger. Et là, on est quand même aidé par la pensée très puissante d'un homme qui s'appelle Pierre Legendre, que moi, j'encourage les uns et les autres à lire, même si ce n'est pas toujours très facile. Mais lui, il est allé là, il est allé à cet endroit-là. Il a suivi, et c'est lui d'ailleurs qui a été le premier à éditer Kantorowicz, qui est cet écrivain qui avait sorti dans les années 40, en 1949 exactement, un livre et un article, plus exactement, ce n'était pas tout à fait un livre, un article qui s'intitulait « Mourir pour la patrie ». Et c'est Legendre qui, dans les années 80, 1984, a édité ce texte avec d'autres textes, avec une préface de lui-même, en expliquant justement cette exigence comme essence, l'exigence de tout exiger.
On rappelle à l'occasion que cette image de Banania, cette image du noir qui aujourd'hui vient à peine d'être éradiquée des catalogues, cette image présentait un noir sympathique, non pas simplement parce qu'il avait un grand sourire, mais surtout parce qu'il était habillé en tirailleur sénégalais, et c'était donc, vous l'avez très bien évoqué, cette idée que l'armée, mourir pour la patrie, c'est une forme de rédemption, c'est une façon de s'excuser, d'être ce que l'on est. Mais ça n'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y en a une, évidemment, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la religion.
Oui, mais revenons toujours à l'étymologie. Religion, ça veut dire réunir, ça veut dire lier un corps, ça veut dire donc lier un corps social. Et quand on sait, à la suite de Legendre, par exemple, qui était un spécialiste de droit canon, hein, que l'empereur a pris la place du pape et que la République a pris la place de l'empereur qui avait déjà été prise par le roi précédemment, vous voyez qu'on est toujours dans la même structure mentale. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue d'interroger. C'est cette structure mentale-là. Et quand on va dire religion, il faut absolument qu'on le pense dans cette continuité-là. Le travail qu'on essaye de mener sur le terrain avec Emmanuel Taurine, c'est un travail que j'arrive maintenant à définir avec un mot. C'est le mot de continuation. Et vous savez, la continuation, c'était un genre au temps de Byzance, un genre littéraire. C'était un genre littéraire lié à l'histoire. Ça s'appelait les continuations. Et je crois que c'est ça notre engagement aujourd'hui, d'une certaine manière, par rapport à toutes ces questions qu'on vient de poser sur le plan général. C'est d'arriver à élaborer des continuations, des textes communs, des fictions, écrites à plusieurs, écrites de chaque côté du miroir colonial, écrites de chaque côté des fictions opposées, écrites de chaque côté des récits de réalité qui arrivent d'horizons et de cultures héritées différents. Et le tout inscrit dans la continuation. Et là, je pense qu'à ce moment-là, la question religieuse, elle devient très passionnante.
L'imagerie religieuse a donc certainement contribué à établir le colonialisme, de même que l'image positive d'une militaire a, elle aussi, œuvré dans ce sens, si on peut parler d'œuvrer. Mais il y a un troisième élément, au-delà du fameux sabre et goupillon, qui vont ensemble pour former le bataillon des colonies, il y a un troisième élément auquel je n'avais pas pensé et sur lequel vous avez attiré mon attention, Christine Breton, c'est l'instituteur.
Oui, c'était important d'arriver jusque-là. D'abord, pour rendre hommage à un travail qui est le travail d'une femme qui s'appelle Françoise Vergès et qui, avec Blanchard, dont Pascal Blanchard, vous allez certainement, avec qui vous allez certainement discuter aussi, parce qu'il est assez incontournable sur ces questions-là. Il a consacré des années de sa vie à ses recherches, donc il continue d'en consacrer d'autres. C'est la question donc de la République coloniale. Et là, je crois qu'ils ont touché quelque chose de très, très, très beau. L'intuition est fabuleuse. Le livre qu'ils en ont tiré nous aide beaucoup, d'ailleurs, tous, hein, et moi en particulier. L'intuition est la suivante, c'est que la République coloniale est une utopie. La République coloniale est un récit, comme Manoni disait que la théorie est une fiction. De la même façon, c'est une fiction, c'est une utopie. Et cette République coloniale, c'est un monstre absolu. C'est-à-dire, comment faire, arriver à faire que des gens vont croire, et moi en premier, je suis fonctionnaire, hein, et je m'imagine 50 ans plus tôt en Algérie comme fonctionnaire. Et j'y aurais cru, je vous assure, j'y aurais cru. Parce que c'est fabuleux d'imaginer qu'un pays, la France, qui a fait la révolution, les droits de l'homme, va apporter la mission civilisatrice, hein, va apporter justement les fameuses bases des droits de l'homme dans d'autres espaces géographiques que le seul espace géographique français. Bon, Napoléon, il l'a tenté lui aussi avant, on le sait. Mais là, on a des dates de fondation formidables en France, qui sont autour de 1881-1885, où on a un monsieur qui s'appelle Jules Ferry, qui d'un coup conceptualise, on oublie de le penser comme ça en termes d'histoire, hein, conceptualise un tripode étonnant, parce que justement, qui va façonner l'imaginaire, et l'imaginaire colonial en particulier, c'est la création des musées, l'entretien de l'empire colonial et la mise en place de l'enseignement primaire, obligatoire, pour tous, où tous les enfants vont être à l'école sous un petit tablier noir, à égalité des chances, comme c'est la mode de le dire aujourd'hui, avec un instituteur qui vont être ces hussards de la République, qui vont aussi bien dans la campagne cévenole que dans la campagne algérienne, amener à la conscience des uns et des autres, par l'éducation, les valeurs de la République. Vous imaginez à quel point ça peut être paradoxal que ces valeurs-là de la République se trouvent être aussi l'arme du pire, de la pire chose qui soit, qui est la forme coloniale quand elle est hégémonique, d'autorité, répressive, etc. Vous vous rendez compte ? Donc c'est ce paradoxe-là, moi, qui continue de me passionner. Parce que, effectivement, si on est un peu humain, vous-même, j'imagine, vous pouvez être fasciné par ça. Et c'est fascinant.
Les images qui ont constitué, forgé cet imaginaire colonial, elles se trouvaient donc non seulement dans les cartes postales, dans les affiches, dans les réclames, dans les propagandes des ministères et dans les images pieuses, mais elles se trouvaient aussi, et c'est étonnant, dans les livres de classe. Et ça, c'est effectivement une grande question posée à notre République, sa capacité de transmettre, sa capacité, son honnêteté à donner une éducation aux générations futures qui soit une éducation réelle, complète et sensible. Vous l'avez évoqué à l'instant, la notion de patrimoine, patrimoine colonial, conservation et diffusion. Comment aujourd'hui éclairer ces images? Comment les rendre lisibles? Comment démonter leurs mécanismes en dehors de cette disposition muséale qui, je crois le comprendre, n'a pas forcément toutes vos faveurs?
C'est pas tant une question de faveur qu'une question d'aventure intellectuelle. Je pense qu'il y a des alternatives, je pense que tout l'espace est à inventer. Il s'agit de l'espace symbolique de toute façon, et dans l'espace symbolique, on a tous notre petite pierre à apporter à cet édifice-là. Donc vous voyez, c'est pas contre. En revanche, toujours dans le pas contre, moi ce que j'aimerais, pour répondre à votre question, quand vous parlez d'éclairage, éclairement, c'est de revenir à une attitude qui me semble très moderne aujourd'hui. C'est celle des récits partagés. Et quand on arrivera à se positionner comme ça, à égalité de parole, à égalité de récits, venant d'origines complètement différentes les unes des autres, et à partager ces récits, alors là, à partir de là, je crois qu'on va commencer à se poser des bonnes questions par rapport à l'éclairage. Vous voyez? Et là, je pense qu'il faut revenir à quelque chose qu'a écrit un monsieur qui s'appelle Georges Corme, il y a 3 ou 4 ans de ça, quand il dit, et je reviens à Édouard Saïd et à l'orientalisme, hein, quand il dit « Orient-Occident, la fracture imaginaire ». Il a raison. Si je parle de récits partagés, il faut qu'on arrête avec ces fameuses fractures imaginaires. Et donc j'ai bien l'impression, moi, que la dénonciation de l'imaginaire colonial fait partie de cette rupture qu'on continue d'entretenir. Vous voyez? Et c'est contre ça que j'essaye de m'élever. Je ne sais pas si j'ai été assez claire pour ce moment, mais en tout cas, c'est ce qui me passionne le plus actuellement.
Une histoire partagée pour un imaginaire qui l'est tout autant. Et pourtant, même si ça semble évident, comme vous le décrivez, on assiste aujourd'hui quand même à une forme d'autisme global de la part de la France à l'égard de son passé colonial récent, bien un peu plus ancien.
Oui, vous allez vous dire que systématiquement, je prends le contre-pied de ce que vous dites, hein, excusez-moi. Mais non, pas du tout, je ne vous suis pas du tout là. Dans le sens où vous avez vu l'âge de Pascal Blanchard, vous avez vu ce grand gaillard tout jeune qui a déjà sorti des bouquins et autour de lui qui fabrique des générations de chercheurs. Ça y est, c'est parti. La recherche coloniale, elle est pas nouvelle, ça y est. Et la recherche post-coloniale idem, et la recherche liée à la décolonisation, ça fait un moment que tout le monde y est. Il y a des kilomètres de bibliothèques déjà là-dessus. Je ne crois pas à cette question d'autisme. Je ne pense pas du tout. Je pense en revanche que c'est parce que on reste dans la généralité qu'on fabrique nous-mêmes notre propre autisme. Et quand Édouard Saïd élabore l'orientalisme ou après impérialisme et culture, c'est là-dedans qu'il est rentré. Et je pense d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que les personnes moi, qui m'influencent le plus sont les philologues et les gens qui font de l'étude comparée littéraire. D'abord parce qu'il s'agit de comparer des récits, vous voyez. Donc c'est eux qui nous amènent beaucoup de choses. Françoise Vergès, dont j'ai parlé tout à l'heure, fait beaucoup de travail là-dessus. Donc, s'il y a autisme, il est ailleurs. Si vous le dites, c'est qu'il y est. Hein. Donc il faut essayer de savoir à quel endroit il peut être. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est en France. Ça ne me paraît pas juste par rapport aux recherches en cours. Alors où est-il? Cherchons.
Je vous propose une piste chez les politiques. Un certain article 4 d'une loi du 23 février 2005 parlait du rôle positif de la France dans le cadre de son empire colonial. Est-ce que ça n'est pas ça, une forme d'autisme?
Moi, j'appelle ça une maladresse. Je ne donne pas raison, mais j'appelle ça une maladresse. Vous soulevez vos sourcils, vous avez raison. Il y en a beaucoup qui, en écoutant ça, vont soulever leurs sourcils. C'est une vraie maladresse, au sens où j'intuite ce qu'il y avait derrière. Ça s'est un peu raté, ça s'est un peu perdu en cours de route, comme beaucoup de choses d'ailleurs qui se perdent en cours de route. Hein. Mais vous avez raison de l'évoquer. Là où il y a une erreur, je pense, et où il y a une principale maladresse, et qu'il ne fallait pas passer par la loi. En revanche, vous voyez que j'ai un petit peu raison, c'est-à-dire que ce que vous venez d'évoquer est pour moi le symptôme parfait qu'on n'est pas dans l'autisme. C'est le symptôme parfait, maladroit certes, mais symptôme parfait qu'on se pose ces questions. Et de vouloir les ramener dans le lieu du débat.
Tali, tali 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 ki kurur mundu mo samadiole kurundu mandi tali 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 ki saram fatuwe kilelun manjam kundu mandi jali tali 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 ki kurundu mo jali wilenundu mo ya samadiole.
Une seconde lecture d'images, de ces images terribles qui sont le lourd héritage de l'époque coloniale. Cette fois-ci, cette image nous est décrite par Christine Falcoz.
Donc c'est une affiche pour convier les gens à un jardin zoologique d'acclimatation pour aller voir les Indiens Galibi. Donc les Indiens Galibi sont originaires de la Guyane française. Et cette affiche est insupportable. Déjà, le mot jardin zoologique, c'est pour parquer des êtres vivants hors de leur lieu d'habitation, lieu de vie normal. Jardin zoologique d'acclimatation, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que l'on peut acclimater qui que ce soit hors de son lieu de vie ? Donc là, on parle des Indiens Galibi. Et en bas, on montre, c'est écrit « Chemin de fer de l'Ouest, porte-maillot, comment aller voir ces gens dans ce jardin zoologique ?» Donc ça, c'est le contexte. Ce qui est représenté sur cette affiche, c'est une famille avec deux personnages principaux. Le chef de famille, assis, vêtu de couleur rouge. Ce sont les seules notes de couleur vive présentes sur cette affiche. Sur ses genoux, il tient un enfant de sexe mâle. Debout, à côté de lui, est une femme, pratiquement nue, avec simplement une petite jupe, un pagne, je pense, aurait-on dit à l'époque. Elle est enceinte, les cheveux nattés, les seins nus. Elle porte un petit enfant qu'elle allaite. Pour en venir à cette couleur rouge omniprésente, sur les vêtements et sur le corps du chef de famille. Cette femme a du rouge aussi sur les jambes, a les jambes complètement rouges, et du rouge aussi sur le bras droit. Ce qui me frappe le plus, c'est l'aspect qu'on a donné à son visage. Un aspect, c'est absolument horrible de le dire, mais un aspect simiesque, extrêmement réducteur. Je trouve aussi que le couple se regarde de manière un petit peu brutale. Il n'y a pas de douceur dans le regard dans la manière dont ils se regardent. Je trouve que c'est assez brutal. Donc voici pour les quatre personnages qui sont sur le devant de cette affiche. Derrière eux, juste derrière eux, il y a deux autres personnages que l'on ne distingue pas très bien, excepté un personnage dont on voit les muscles du bras ressortir, luire. Je pense que cela fait appel au fait que de l'utilité que de ces peuples pour l'empire colonial français. Donc, en second plan, il y a un homme couché par terre, à plat ventre. Donc, il est couché par terre, effectivement, dans une position que je qualifierais de décontractée, comme s'il s'y trouvait bien. Et en arrière-plan, des arbres de la forêt tropicale équatoriale. Pour revenir au personnage du premier plan, à côté d'eux, par terre, il y a des objets qu'il est difficile d'identifier. Cela ressemble, au moins pour deux d'entre eux, à des instruments de musique, un tambour. Donc voici pour la description des personnages. Cette affiche est pour moi très choquante, très réductrice, comme s'il n'y avait aucune humanité, que ce n'étaient pas des êtres humains. Je crois que c'est cela qui ressort le plus de l'affiche.
Une image d'une extrême violence, une affiche publicitaire pour faire la réclame d'un zoo humain. C'est la réalité, une des réalités de cette imagerie coloniale. Toutes les images produites à l'époque n'avaient heureusement pas ce degré absolu de perversité. Et pour évoquer d'autres aspects de l'imaginaire colonial, Michel Ménien, historien, spécialiste des cartes postales et photographies orientalistes, aborde pour nous le travail de Lennert et Landrock, respectivement photographe et éditeur à Tunis, en 1900.
L'originalité de Lennert et Landrock, quand ils arrivent à Tunis en 1904, c'est qu'ils vont commercialiser à la fois des cartes postales et des tirages photographiques de très grande qualité. Et à cette époque, sur le marché de ces tirages photographiques, ils n'ont pas vraiment de concurrence. Ils sont complètement atypiques.
Alors parlons un peu maintenant, si vous voulez bien, des thèmes qui sont abordés dans le cadre de ces photographies. On va, si vous voulez bien, se limiter à trois thématiques qui me semblent assez emblématiques, qui sont d'abord les paysages, ensuite ce qu'on pourrait appeler scènes et types, puis on terminera, si vous voulez bien, avec les nus. Parlons tout d'abord des paysages, ça représente une grande part de ces cartes postales coloniales.
Oui, ça représente une partie très importante dans le corpus général de la carte postale coloniale. Mais il est indéniable que ce soit les représentations de la ville arabe médiévale, avec les rues de la Médina, les perspectives sur les minarets, les représentations de marchés, des souks, voir les décors intérieurs de palais, l'oasis avec les clichés du palmier, de la Kouba, des ouèdes, des enfants dans les ouèdes, des laveuses, voire des porteurs d'eau, le désert avec le chameau, les caravanes et les camps de bédouins. Bon, ce sont des clichés qui sont rabâchés, qui insistent sur l'exotisme et la différence, c'est très net, et qui attire évidemment un marché de cartes postales qui s'adresse à un occidental blasé qui s'ennuie dans la grisaille la grisaille des grandes métropoles occidentales et qui est à la recherche d'un dépaysement, sinon du souvenir d'un voyage qu'il a réalisé.
Alors, l'orientalisme que vous citez comme étant une des références esthétiques de Lennert et Landrock, et sans doute au-delà de Lennert et Landrock, la plupart des photographes qui interviennent dans ce domaine, est-ce qu'on peut le définir en quelques mots?
Ben, écoutez, effectivement, j'ai intitulé la biographie Rudolf Lennert, photographe orientaliste. Je crois que j'ai l'impression que c'est le seul où il y en a très 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 peu que que l'on pourrait intituler d'orientalisme. Bon, l'orientalisme, c'est un terme suffisamment ambigu, hein, déjà pour traiter qu'il y ait un débat sur la signification de ce terme. Si vous voulez, c'est un courant de pensée qui est né des siècles des Lumières et qui s'est amplifié avec le romantisme du 19e siècle, l'on a rattaché en le condamnant comme une entreprise liée au colonialisme afin de dominer l'Orient. C'est la thèse d'Edouard Saïd, hein, qui considère que l'Orient n'est qu'une catégorie mentale inventée par l'Occident afin de mieux le dominer. Et puis il y a aussi certains qui pensent qu'il y a dans ces orientalistes des artistes sincères qui ont rêvé d'un rapprochement entre deux cultures, et de ce point de vue, Rudolf Lehner s'est intéressé de façon évidente à la culture orientale.
Alors abordons maintenant, si vous voulez bien, un deuxième aspect du contenu de ces images, ce qu'on pourrait appeler scènes et types, et je précise bien que c'est au-delà de l'œuvre de Lehner et Landrock, très précisément, l'ensemble des cartes postales qui ont été réalisées à cette époque qui nous intéresse. Elles évoquent notamment...
d'inspiration purement colonialiste, hein, ça je suis tout à fait d'accord avec vous.
Elles évoquent notamment la vie de ces indigènes, et elles l'évoquent au travers d'un certain nombre de leurs activités. On voit très très souvent des scènes qui représentent les fêtes populaires. On voit aussi souvent représenter le travail, notamment les petits métiers.
Oui, alors il y a une volonté effectivement dans ces scènes et types de représenter une population différente à partir d'une assise scientifique qui est finalement très très faible, hein, la photographie métrique que l'on a appliquée à la science de la criminologie, reprenant les thèses de Gobineau sur la différence entre les races. Donc il y a à la fois des types qui sont représentés uniquement avec une apparence extérieure qui déprécie d'ailleurs toute valeur scientifique à cette approche, et puis où on essaie de mettre en action, si vous voulez, ces types dans leur vie quotidienne qui est plus ou moins mise en scène, préparant le couscous, fabriquant le tapis, etc. Des scènes qui sont parfois prises sur le vif et des scènes qui sont parfois, avec les nerfs, complètement recomposées, puisque le même modèle peut être à la fois chez les nerfs, une jeune fille juive et puis ensuite une fabricante arabe de tapis.
Comment est-on passé, selon vous, de ce morphotype, vous citiez Bobineau tout à l'heure, de cette façon vraiment de caractériser une ethnie en fonction de ses caractéristiques physiques, comment est-on passé de ce morphotype à quelque chose qui relève vraiment de la caricature?
C'est la simplification des légendes et la nature même, si vous voulez, du marché de la carte postale, qui impose des légendes très simplifiées et avec une déontologie et un manque d'ouverture et d'empathie, sinon de sympathie pour la population locale, on en arrive à des légendes du type négro, on en arrive à des légendes du type ma belle-mère avec une jeune, avec une mauresque d'un certain âge. Donc, je voudrais dire, mécaniquement, je dirais que c'est le choix de l'éditeur qui, dans un environnement scientifique qu'il croit justifié, applique une terminologie qui ne l'est plus du tout. Le terme de mauresque, par exemple, n'ayant plus aucune signification d'autre que celle que de signifier prostituée à cette époque. Et en ce qui concerne Geyser, les mêmes modèles chansons intitulées Algérienne, puis Type d'Algérie du Sud, et en ce qui concerne les nerfs et l'androc, là il y a des dérives très importantes sur le marché de la carte postale, puisque les mêmes scènes et les mêmes personnes, notamment je pense à une image très très emblématique de femme algérienne dans le costume le plus traditionnel qui soit de la femme algérienne, va être commercialisée et légendée au Maroc comme des femmes marocaines, en Tripoli comme des femmes de Tripoli, de la Libyenne, de la Libye italienne après 1912, et même avec des légendes allemandes pour un public plus attiré par l'Empire ottoman avec Turkish Orientalistippen. Donc il y a des dérives très importantes qui sont explicables par la nature commerciale du marché de la carte postale, pour lesquelles, évidemment, comme pour le capitalisme, les frontières n'existent plus.
Abordons maintenant un troisième thème particulièrement important dans ces cartes postales coloniales, c'est le thème des corps, bien sûr.
Oui.
On peut représenter dans ces cartes postales des corps, souvent dénudés, ce qu'on avait bien du mal à faire sans doute dans les cartes postales classiques métropolitaines. Est-ce qu'on a tendance, selon vous, à chosifier le corps, c'est-à-dire à en faire un objet qui devient un objet de fantasme facile ?
Un objet de fantasme facile, oui, dans la mesure où, contrairement aux cartes postales érotiques qui existent en très grand nombre en France, les cartes postales érotiques qui circulent de France, enfin plus exactement des colonies vers la France, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique du Nord, représentent des femmes dénudées mais dépoitraillées. Il y a des retouches qui ont été faites, notamment par Liner et Landrock, sur des corps entièrement dénudés. Il y a quelques précautions qui sont prises, mais évidemment c'est déjà une grande licence qui est accordée aux éditeurs et de cartes postales qui sont installés dans les colonies, où l'on peut envoyer des cartes postales où on représente même, je pense à Casablanca, des photographies de prostituées entièrement nues qui travaillent dans un quartier réservé de Casablanca. C'est impensable qu'en France, on envoie des cartes postales représentant des prostituées nues travaillant dans des bordels en France. La réalité du bordel est la même en France et en Afrique du Nord. En revanche, la circulation des images n'est pas la même. Et là, de ce point de vue, il y a eu des formulations très très critiques sur cette production qui a stigmatisé effectivement le pouvoir colonial qui a permis la circulation de ces images. Il faut par exemple signaler que dans le seul pays qui est resté indépendant, l'Empire ottoman, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de circulation de cartes postales avec des nus. C'est un pays qui est ouvert sur la modernité, qui a accepté la photographie comme d'ailleurs moyen de propagande aussi, mais il n'y a pas de nus. Le contexte colonial témoigne aussi de phénomènes de marginalité qui sont engendrés par une société phallocentrique. Voilà. C'est quelque chose que Alula, dans son livre Le harem colonial, ne traite pas, parce qu'il insiste avec raison sur l'assimilation entre le fantasme du harem auquel l'occidental n'est pas admis, avec le bordel, et ce en quoi il a tout à fait raison, puisque l'essentiel des modèles sont des prostituées, ou alors il y a un acte de violence accepté. Mais vous savez, personnellement, moi, la photo qui me choque le plus dans les nus, dans cette thématique de violence. Il y a une photo très scandaleuse dans le livre, qui pourrait être jugée très scandaleuse. C'est une femme voilée et qui a un sein dénudé. En ce qui me concerne, cette photo, personnellement, moi, ne me choque absolument pas et renvoie à des interdits sur lesquels, aujourd'hui, dans le monde musulman, des gens essaient de faire bouger les choses, justement, pour que, justement, au nom du féminisme, les femmes ne portent plus le voile. En revanche, il y a des photos qui sont beaucoup plus violentes et qui ne sont pas des photos de nus. C'est, par exemple, des femmes qui sont complètement habillées et qui acceptent de se faire photographier, comme cela existe sur quelques cartes postales, en faisant le salut militaire devant le photographe. Ça, ce sont des photographies beaucoup plus violentes, à mon sens. Ce sont des femmes qui sont des prostituées, mais ce sont des femmes qui, et c'est là où je suis en désaccord avec Aloula, qu'il ne faut pas condamner parce qu'elles sont complices du colonialisme. Ce sont aussi des femmes qui sont exclus d'une société phallocentrique et sur lequel il faut avoir un regard différent que celui de la condamnation qu'il faut plutôt réserver au regard colonialiste et surtout pas accabler ces pauvres femmes, surtout si elles sont vieilles et pas belles, contrairement au modèle de Lehner, en les traitant de complicité.
Alors ces images, elles sont aujourd'hui, elles constituent un patrimoine fort recherché des collectionneurs, on vient de le voir, mais elles sont aussi recyclées, parfois réutilisées, et parfois d'une manière tout à fait étonnante. Et je voudrais que vous nous évoquiez brièvement le cas notamment de cette photographie d'un jeune Efeb, je crois intitulé Mohamed, oui, pris par Lehnert et Landrock, oui, et qui aurait été utilisé dans les années 70, je crois, par le gouvernement iranien, pour représenter.
C'est pas tout à fait cela. C'est une ces images ont été découvertes à partir du début des années 1990. Elles ont été éditées en Iran, pas par le gouvernement, mais le gouvernement ne s'est pas opposé, en tout cas jusqu'à présent, à leur commercialisation. Il faudrait savoir si la crise actuelle sur les caricatures danoises...
Alors, précisons quand même, parce que l'auditeur là ne va pas comprendre de quoi nous parlons, cette image donc du jeune Mohamed, prise dans les années 1900 à Tunis, est devenue tout à coup l'image du prophète Mahomet.
Oui, en fait, c'est une découverte du professeur Pierre Sanslivre et de Micheline Sanslivre de Mont, qui a publié un article à ce sujet dans l'étude photographique, le dernier numéro, le numéro 17, et qui a identifié dans des posters iraniens édités à partir des années 90 et qui représentent le prophète Mahomet, jeune, une image d'un jeune éphèbe tunisien photographié par Rudolf Lehner à Tunis, donc vers 1904-1905. Ces posters ont été légèrement retouchés pour atténuer les traits pour viriliser un petit peu l'image. Certains recouvrent un petit peu l'épaule parce que c'est une image assez caravagesque, très très sensuelle. Mais pourquoi pas, la sensualité et même l'érotisme. On parlait d'interdit tout à l'heure. Vous savez, l'islam est la seule des trois religions monothéistes qui a intégré l'érotisme dans sa théologie. De ce point de vue, que des musulmans chiites, chiites, j'insiste, puisque dans la tradition chiite, il y a toute une tradition iconographique très 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 riche, avec des miniatures, y compris des miniatures érotiques. Que des musulmans chiites aient reconnu dans cette image de Rudolf Lehner sensuelle et particulièrement réussie, qui peut faire penser à Ingres, au Caravage, un idéal de beauté, de jeunesse digne de représenter le prophète Mahomet dans sa jeunesse, est quelque chose de qui n'est pas si étonnant que ça en a l'air à première vue, je pense. C'est le symbole que l'orientalisme dont je parlais tout à l'heure pouvait provoquer des doubles lectures, et que l'orientalisme, là, en ce cas, rassemble et non divise, parce que chacun peut, à partir du moment où la beauté d'une image s'impose à chacun, quel que soit le contexte historique dans lequel elle a été produite, chacun peut se la réapproprier. Et c'est une réappropriation sans doute étonnante, mais extrêmement intéressante d'une image coloniale, dira-t-on, par les musulmans dans l'Iran chiite de nos jours, puisque jusqu'à ce jour, les posters sont toujours en vente et qu'il faudrait voir s'ils le resteront après l'affaire des caricatures danoises.
Curieux parcours de cet imaginaire colonial que nous avons essayé d'explorer sans tabou et qui nous aura mené dans tous les aspects d'un impérialisme dont nous n'avons apparemment pas fini de subir les conséquences. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce parcours, Emmanuel Taurine, Christine Breton, Hamza, Kevin et Nabil aux ateliers de l'image, Christine Falcoz et Michel Ménien. Et quoi qu'il en soit, dans la diversité des points de vue qui s'expriment sur ce sujet, une réalité ne devrait pas être perdue de vue, c'est que nous sommes finalement tous dans le même bain.